parce qu'elle convient qu'il est artiste, multi-pluridisciplinaire et non étanche. Il sculpte, il filme, il écrit, il pense, et il dépense, il apprend, il professe, il fait des images, il a écrit un livre, on va parler peut-être, voilà, c'est un ami du groupe musical depuis longtemps, et c'est un des artistes sans qui on ne pourrait pas faire son fils, voilà, c'est simple. Mais, alors après, tu parles de ce que tu veux.
Bon, alors de quoi je vous parlais? Je ne sais pas trop, moi. En fait, en ce moment, je travaille sur Bordeaux.
C'est où ça?
C'est où ça? C'est pas loin, Bordeaux. Et donc, j'ai écrit un livre sur... je vous montrais un début du film, hein, on va pas faire que parler. Il y a 3 ans, en fait, il y a 3 ou 4 ans, j'avais fait le monument pour les fusillés de Mont-Valérien. C'est le monument donc, qui est à Suresnes. Suresnes, vous voyez, donc il y avait le truc de De Gaulle, là, une barre avec... ce qu'on appelle la France combattante, et puis j'avais été contacté pour faire le monument pour les fusillés Mont-Valérien, donc qui ne concernait pas la France combattante. De Gaulle, en fait, dans un premier temps, il y avait une souscription qui a été faite en 1945, dès la libération, pour qu'il y ait la France combattante qui soit installée au Mont-Valérien, qui était en haut lieu. Il a fallu attendre le retour de De Gaulle au pouvoir pour que ce monument se fasse. Ce monument s'est fait, a été inauguré dans les années 60, je crois que c'est en 60. Et donc quand vous allez au Mont-Valérien, il y a une grande, un très très grand mur avec toutes les armes, les armées, et la France combattante intérieure et extérieure. Il a fallu attendre encore un peu de temps pour que les déportés qui arrivent, c'était un peu par stade comme ça. Mais dans cet endroit-là, au Mont-Valérien, il y avait aussi autre chose, il y avait les fusillés de Mont-Valérien. C'est-à-dire c'était l'endroit où les Allemands, avec l'aide copieuse et vigilante des policiers de Vichy, menaient le résistant qui était arrêté en fait essentiellement par ce qu'on appelle les brigades spéciales de Vichy, et donc ils avaient mené pour être fusillés par les Allemands au Mont-Valérien. Donc à cet endroit-là, il y avait le monument de la France combattante, mais il n'y avait pas de monument pour les fusillés. Et il fallait faire un monument pour les fusillés, c'était un projet de loi de Robert Badinter, et mon monument avait été choisi. Mon projet de monument en tant que sculpteur a été choisi pour être érigé au Mont-Valérien. Suite à ça, j'avais fait ce monument, puis j'avais essayé de comprendre un petit peu qui c'était ces gens qui avaient été fusillés là-bas. Il y avait beaucoup de noms avec des consonances étrangères, beaucoup, hein. Beaucoup de gens d'Europe de l'Est, en particulier des gens que vous connaissez tous, hein, le groupe Manouchian, hein, qui a été fusillé là-bas. Et j'ai fait un film donc, pour essayer d'expliquer un petit peu qui étaient ces 1000 fusillés de Mont-Valérien qui avaient été oubliés. Ce film a déclenché une polémique qui m'a dépassé. Autant vous dire que je n'ai pas du tout compris ce qui se passait. Dans la mesure, tout simplement, dans le film, je disais que parmi les 1000 fusillés, les 1006 fusillés, il y en avait 80% qui étaient soit juifs, soit communistes, soit étrangers, et parfois les trois à la fois, ce qui n'était quand même pas, évidemment, une qualité première reconnue par les nazis. Ce qui expliquait largement qu'ils étaient fusillés. Et ce film bon, a été dans un premier temps retiré d'antenne. Après, on m'a dit qu'il fallait que je mette un encadré. Donc, un encadré. Il faut imaginer la situation. Bon, moi, je débarquais là-dedans. Hein. Donc, j'ai pas du tout compris la violence qu'il y avait autour de ce film, ni autour de ce projet, hein, y compris le monument, parce qu'en fait, le monument a été inauguré par Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, et pas du tout par Jacques Chirac, président. Donc c'était pas une inauguration présidentielle, il y avait vraiment des tas de difficultés politiques en santé autour de ce problème-là. Et le film lui-même, en fait, a été considéré comme trop engagé par des tas d'associations, ce qui fait qu'il a été déprogrammé, reprogrammé. Il passait sur la chaîne Histoire, donc vous imaginez, c'est à peu près 2000 personnes, c'est un peu le useste de la télé, donc il n'y avait pas de quoi à fouetter un chameau, quoi. Mais ils l'ont quand même déprogrammé, ils l'ont reprogrammé avec un encadré, un peu comme autrefois avec une affiche. Ce film pour m'engager. Bon. Et à partir de là, en fait, ce film, finalement, comme tout ce qui est censuré, a connu, je dirais, un regain d'intérêt, puisqu'il a été diffusé à 100 000 exemplaires, sauf dans les lycées et collèges, puisque là, il faisait de la chasse pour que je ne sois pas dans les lycées et collèges. Bon, mais ça, c'est pas grave, finalement, il terminera quand même dans les lycées et collèges. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé, le jour même de l'inauguration, j'ai rencontré une personne qui a fait un discours. Cette personne s'appelait Georges Dufaux, s'appelle toujours, il est toujours vivant. il s'appelle Georges Dufour, il a fait le discours pour les familles de fusillés massacrés d'Île-de-France. Il était président de l'association. Et Georges Dufour, il me dit, mais vous n'avez pas parlé de mon père. Je soutenais beaucoup le film, et je dis, c'est qui votre père? C'est Joseph Epstein. Et alors là, moi, je suis là comme en flanc, quoi. Je dis, ah bon, je ne savais pas du tout qui c'était, quoi. Par la suite, en fait, c'est Van Inter qui m'a redit ça, il m'a dit, parce qu'il commençait à être un peu fatigué de me voir, il m'a dit, voyez Epstein. Et donc j'ai engagé un travail qui a duré 3 ans, oui, un peu plus de 3 ans, à la recherche sur les traces de ce Joseph Epstein, savoir qui était Joseph Epstein. Et Joseph Epstein, c'était, la manière dont il était plus connu, c'était sous le nom de colonel Gilles, c'était le dirigeant de l'ensemble des francs-tireurs partisans de l'Île-de-France. Mais ce n'était pas le dirigeant de ce qu'on appelle la MOI. La MOI, c'est la main-d'œuvre immigrée. C'était la partie, si vous voulez, qui regroupait, qui avait été construite par le Parti communiste à partir de 1921, hein, qui regroupait par identité nationale ou culturelle. C'est-à-dire, il y avait dedans les Tchèques, Hongrois. Non, c'était lui qui dirigeait l'ensemble des FTP de l'Île-de-France, donc de toute la mouvance communiste de l'Île-de-France. Et donc, c'était un juif polonais communiste qui dirigeait l'ensemble de la résistance en 1943, qui est la date clé, en fait, pour les gens qui s'intéressent à cette période-là, la date clé, en fait, de la bascule, en fait, on est juste après Stalingrad, hein, c'est-à-dire c'est le moment où la lutte armée s'installe de manière radicale en France. Et du coup, évidemment, quand j'ai trouvé ce personnage qui a été arrêté en 1943, donc avec Manouchian. Il a été arrêté en même temps que Manouchian, puisqu'ils avaient rendez-vous ensemble à Ivry-Petit-Bourg. Et l'histoire a retenu, enfin l'histoire sous les soins de la mémoire communiste, a retenu Manouchian, hein, grâce au poème d'Aragon, fort tardivement d'ailleurs. Et Epstein, lui, a sombré dans la nuit, comme d'autres, hein, c'est pas le seul. Mais c'est vrai que ça c'est un peu ma manière de fonctionner. Ma relation à son fils, bon, Georges Dufour, qui ne portait même pas le même nom que son père, m'a amené à faire ce très très long travail, ce très long trajet pour savoir qui c'était Joseph Epstein, tout simplement. Voilà. Dans un premier temps, en fait, le projet était de faire un film. Ce film a été fait, il va être diffusé sur Arte, il a été produit par Arte. Être diffusé donc en début d'année là. Après ça a duré, j'ai vécu des aventures assez extraordinaires par rapport à tout ça. Et puis en même temps que je faisais ce film, la personne qui soutenait beaucoup de projets, même s'il ne la produisait pas au début, il le produisait en sous-main, c'était Caronet Boutan, c'était lui qui faisait Métropolis. Vous racontez comment on a fait le film, en fait, il dégageait les équipes, il tournait Métropolis, c'était l'époque qu'il avait encore, il dégageait les équipes, donc il les faisait travailler le matin pour le Métropolis. Et vous me les envoyez l'après-midi. Donc c'est comme ça que j'ai pu tourner des gens comme M. Aubrac, Richard Valdemont, qui après était mort. Donc on a tourné, avant qu'il y ait la production, qu'il y ait quoi que ce soit, on a tourné le film dans des conditions un peu bizarres, mais en fait ça s'est très très bien passé finalement. Et puis finalement Arte a repris toute la production pour aboutir, en fait, que ce soit projeté dans les mois qui viennent dans la 4 et mercredi de l'histoire. Alors qu'au début ça devait être projeté à 1h du matin, là ils ont décidé de le mettre là, bon, tant mieux. Ce Joseph Epstein, en fait, évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi on l'a oublié. Je répète, c'est pas le seul, hein, cette période-là. Les raisons sont, comme toutes les raisons des oublis, sont complexes. C'est jamais une raison simple qui fait qu'on oublie quelqu'un. Hein, c'est une espèce de palimpseste d'oubli. Hein. Bon, d'abord, il y a tout simplement le fait que quand quelqu'un a été fusillé, on a été fusillé le 11 avril 1944. Donc il a quand même passé de novembre 43 à avril 44 dans les mains de la BS2, la brigade spéciale numéro 2, hein, donc ce n'est pas des gens très très gentils. Il n'a donné aucun nom, enfin, tous les rapports d'interrogatoire, en fait, il mentait en permanence. Donc en fait, il donnait des noms, mais donc, le nom suivant qu'il donnait, c'était le nom de notre personne. Bon, ce sont des gens qui étaient formés, donc lui, si vous voulez, c'est quelqu'un qui vient de Pologne, qui vient d'une petite ville qui s'appelle Zamosh, qui est la frontière de l'Ukraine. C'est quelqu'un qui est né en 1911 et qui est né dans une famille extrêmement cultivée et plutôt de l'haute bourgeoisie polonaise. Il est apparenté au très grand écrivain yiddish Jan Peretz, dont le descendant est dans Pérec, c'était une parenté à Pérec. Dans la rue, parce que je suis allé à Zamoche voir la ville, donc c'est une ville italienne, un petit peu comme Urbino, hein, très colorée, très belle. Et dans la même rue, on a donc la maison où il y a né Joseph Epstein. À côté la maison de Jan Peretz, bon, c'est très grand écrivain yiddish, et à côté la maison de Rosa Luxembourg. On a l'impression, si vous voulez, d'être devant l'Europe, quoi, vraiment dans un contexte d'une espèce d'élite intellectuelle européenne. Et ce très jeune homme, en fait, dont son père a une fabrique de briques, il est issu d'une très longue lignée de rabbins, et son père, lui, il participe à ce qu'on appelle, si vous voulez, la polonisation, c'est-à-dire, en fait, après le traité de Versailles, en fait, la construction de la nation polonaise implique l'assimilation de toutes les minorités, et la grande minorité juive doit être assimilée, donc il y a un mouvement qui va amener... partie des juifs polonais, si vous voulez, du côté du sionisme, hein, donc du départ vers la Palestine, et une autre partie qui va être dans l'assimilation, ce qu'on appelle l'assimilation, c'est en fait la polonisation des minorités polonaises. Son père, lui, donc c'est un bourgeois industriel qui fabrique des briques, il a une centaine d'ouvriers, c'est considérable pour l'époque, et il est dans ce processus de polonisation, si vous voulez, c'est quelqu'un... qui adhère totalement au modèle du général Pilsudski, le général qui dirige la Pologne à ce moment-là, c'est lui qui a arrêté l'armée rouge sur la Vistule. Donc en fait, il adhère à ce modèle-là d'intégration des minorités dans la communauté polonaise, mais Joseph Epstein, lui, à cet âge-là, il ne voit pas du tout les choses de cet œil-là, en fait, et il prend le chemin en fait, du communisme international. Donc, il devient leader du PKK, du Parti communiste polonais, extrêmement jeune, d'abord de sa région, ensuite de la grande région. À 17 ans, on le connaît sous 4-5 noms. Il a déjà 4-5 pseudonymes. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très habitué, si vous voulez, dès son très jeune âge à la lutte clandestine. C'est quelqu'un qui connaît aussi en fait toutes les techniques policières qui sont mises à l'époque pour chasser les communistes, donc il est très très habile. Il est quand même arrêté, il est arrêté par la police de Pilsudski, il est envoyé de l'intervention de son père, moyennant finance, arrive à le faire envoyer à Prague, il est à nouveau arrêté pour agitation, renvoyé dans son pays où il est arrêté, et puis finalement en fait ce départ c'est pour la France. Voilà, donc en 1930, je crois que c'est le 27 ou 28 décembre 1930, il part pour la France. Ce mouvement-là, si vous voulez, c'est un mouvement très particulier. Donc moi, je suis allé à Zamoche, j'ai regardé les listes des archives et des départs des jeunes gens. Il y avait une grande mouvance communiste hein, dans les milieux juifs polonais, mais pas que juifs. Hein. Il y avait une grande mouvance communiste, hein, très très active. Et en fait, beaucoup de ces jeunes gens-là, et de ces jeunes filles, beaucoup de filles, il y a ce mouvement d'émancipation dont Rosa Luxembourg est la figure centrale hein, pour les femmes. Beaucoup sont partis à l'Union soviétique. Et en fait, lui, dans la liste que j'ai vue, c'est le seul qui est parti en France. Hein, c'est lié à la littérature française, à la culture française. Bon, du même coup, il a évité ce qui est arrivé à ses camarades à l'Union soviétique, hein, à savoir très rapidement, dans les années 30, la déportation, tout simplement, dans les goulags. Et il arrive en France. En 1931, c'est quelqu'un qui est formé donc, à toutes les techniques de clandestinité, de combat, et qui a certainement en fait été formé aussi, mais ça pour l'instant on n'en a aucune trace, par l'armée rouge. Voilà. Pour en venir bien plus tard, après, je vais vous montrer un petit bout du film, hein, peut-être pas la totalité, mais un petit bout du film, pour revenir bien plus tard, c'est-à-dire sur son choix, c'est-à-dire la question qui se pose en 1943, comment quelqu'un comme ça devient en fait le dirigeant militaire du FDPF. C'est que c'est un stratège absolument redoutable. Bon, c'est quelqu'un qui à cette époque-là met en place une technique de guérilla totalement nouvelle en France, qui sont en fait un changement de technique militaire. Donc dans l'état-major des FDP, il y a Charles Guillon, Ozoulias. En fait, c'est lui qui met en place une nouvelle technique militaire de telle façon à créer une instabilité permanente chez l'occupant. La technique qui était retenue à l'époque, jusque-là, si vous voulez, c'était la technique du triangle. Exactement comme il y avait des triangles de direction, en fait, il y avait des triangles, il y avait 2-3 personnes, quand il y avait une attaque, ils étaient 3. Et en fait, lui, il va modifier cette technique-là, en fait, pour aller jusqu'à 25-27 combattants. C'est-à-dire, en fait, il fait un système de guérilla où les gens sont du coup protégés par une avant-garde, une arrière-garde, de telle façon à ce qu'il y ait beaucoup moins de gens qui soient pris. Il crée des bataillons, tout simplement ce qu'on appelle le bataillon. On passe, si vous voulez, de l'attentat, non pas isolé, parce qu'ils étaient 3, mais dans tous les groupes, à des structures qui sont beaucoup plus des structures de guerre, qui correspondent à une guerre. Cette technique-là, en fait, à la fois, il l'a inventée, mais il ne l'a pas inventée, parce que c'est une technique qui était tout simplement mise en place et à laquelle il a été formé en Espagne, dans ce qu'on appelle les guerrieros. Les guerrieros en Espagne, c'était les gens qui étaient dans l'infiltration à l'arrière des troupes nazies, en fait. Fascistes, franquistes. Hein, dans son technique qui était déjà mise en place, qui était une technique soviétique, qu'on appelle la guerre des partisans, non soviétique. Hein, donc c'était, mais en France, on était extrêmement opposés à cette technique-là. Donc il a fallu en fait tout le soutien de Tillon, de Zoulias, pour que ça se mette en place, et c'est lui qui l'a mis en place. Mais cette intelligence qu'il a eue, de stratégie militaire, bon, c'est une facette de ce personnage-là. Je vous montre un petit bout du film, on sera plus parlant. Voilà.
Et le livre et le film, en fait, sont construits, les deux, en forme de lettres au fils. Donc de lettres à Georges Dufour, le fils de Joseph Epstein. Vous allez comprendre pourquoi il s'appelle Georges Dufour et pas Epstein. C'est une histoire assez... qui m'a beaucoup occupé. On va dire ça comme ça. Là-bas.